mythos de la Nutra. Philippe Millet sur Nutri Radio.
Bonjour Philippe.
Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Oh là là, je m'attendais pas à ce que le micro soit aussi bon. Ça y est, vous avez trouvé la manière dont fonctionne le micro après 48 éditos de la Nutra. Ben franchement, ça fait plaisir. Alors, de quoi parle-t-on cette semaine, Philippe?
Ben aujourd'hui, je vais vous parler de choses un petit peu techniques. Je vais vous parler des ingrédients botaniques, des extraits de plantes, mais aussi de leur adultération et des moyens qui sont mis en œuvre pour éviter ces adultérations, justement.
Ah.
Ces aspects...
Pardon. Excusez-moi, je me suis enthousiasmé comme ça bêtement. Allez-y, je poursuivez, pardon.
Ces aspects analytiques ont été abordés pendant toute une matinée que Active Magazine Active Mag a animée lors des premières conférences francophones sur les ingrédients botaniques qui ont été organisées à Grasse les 21 et 22 septembre dernier sous l'impulsion de deux sociétés impliquées dans ce secteur, Botanicert et Extrasynthèse.
Alors, les adultérations, est-ce qu'elles sont importantes?
Oui, très. Un chiffre circule. Le taux d'adultération dans le domaine alimentaire serait de 47%. Et ça concerne le miel, la spiruline, les plantes aromatiques, les plantes à parfum, le thé, etc. Quasiment aucune source ne n'échappe à ces adultérations. Et de même, les compléments alimentaires, eux, n'y échappent pas. Pourquoi ? Parce que la recherche de naturalité par les consommateurs, mais aussi la relative ouverture réglementaire du secteur des plantes, vous savez certainement que leurs allégations sont en attente d'évaluation au niveau par les autorités européennes. Donc, ces éléments ont fait qu'il y a eu une inflation du nombre de plantes et de combinaisons de plantes utilisées dans les compléments alimentaires. En moins de 3 ans, ce nombre a augmenté de 30%, puisqu'on dénombrait à fin juillet 2023 près de 2400 formulations différentes à base de plantes. Cette inflation de la demande va donc s'accompagner de celle des problèmes liés à l'authenticité des matières premières. Et la crise de la Covid en a apporté la preuve. Par exemple, en 2020, les consommateurs se sont rués sur les produits capables de stimuler leur immunité, et notamment sur des formulations à base d'une plante, l'échinacée. Or, la production mondiale de cette plante n'était pas suffisante pour que les compléments immunité qui en contiennent réellement. Autres exemples, l'Arpagophytum est adultéré par une autre plante contenant de l'arpagoside, la rhodiola est devenue une proie de choix pour de nouvelles fraudes, elle est remplacée par une autre espèce. Conséquence de ces adultérations, bien sûr, il y a une tromperie sur la marchandise, comme on dit, il y a une concurrence déloyale entre une marque qui joue le jeu, qui utilise des extraits de bonne qualité, authentiques, etc., et une autre qui prend un petit peu le tout venant. Et puis aussi, in fine, pour le consommateur, parce que lui, il va trouver une absence d'efficacité lorsqu'il va consommer un complément.
Très bien, vous voyez, là je m'enthousiasme un petit peu moins, je m'échappe alors que vous êtes là. Est-ce qu'il existe des moyens, Philippe, pour lutter contre ces adultérations? Ça paraît compliqué.
La réponse est simple, c'est oui. Et ce sont des techniques analytiques qui permettent de vérifier l'authenticité des matières premières. Elles sont nombreuses, elles sont très sophistiquées. On se croirait presque dans la série « Les experts A ». Je vais en citer quelques-unes. Il y a l'analyse de l'ADN qui permet d'identifier et de tracer les espèces botaniques. Il y a la métabolomique, il y a la résonance magnétique nucléaire qui permet de voir la composition moléculaire des matières naturelles et en voir aussi la toxicité éventuelle. Toutes ces techniques ont été présentées à Grasse lors du CFIB. Et d'autres techniques sont un peu plus insolites, comme l'utilisation des isotopes, exemple carbone 14. Et vous connaissez cette technique, hein, vous en avez entendu parler, c'est utilisé pour dater précisément l'âge d'un objet. L'archéologie fait souvent appel à ce genre de choses, à cette technologie. Et cette technique, donc, du carbone 14, a été détournée de son objectif premier et utilisée pour analyser, quantifier, authentifier les matériaux industriels biosourcés. Cette analyse permet de voir ce qui est vraiment biosourcé, donc vraiment d'origine naturelle, et la part fossile. Et elle permet de répondre à une question toute simple. Un ingrédient est-il 100% naturel? À cette approche qui relève d'un go-no-go, s'ajoute la possibilité de déterminer l'origine géographique ou botanique d'un échantillon. Et là, non plus, en utilisant non plus le carbone 14, mais des isotopes stables comme le carbone 13 ou l'azote 15. Complémentaires entre elles, donc, ces techniques reposent sur un corpus scientifique solide. Elles sont incontournables pour les acteurs du marché qui doivent répondre aux attentes des consommateurs en matière d'efficacité de leurs compléments alimentaires. les marques de compléments alimentaires doivent non seulement prouver ce qu'elles disent, mais aussi dire ce qu'elles prouvent. Et ça, c'est une réelle démarche de transparence.
Ah oui, et on sait que chaque entreprise du marché, c'est un petit peu, tous les jours, un peu plus le leitmotiv. Dire ce qu'on trouve, dire ce qu'on prouve, c'est important.
Prouver ce qu'on dit. Donc c'est vrai qu'il y a des initiatives qui sont intéressantes. Bon, je ne vais pas en faire la pub, mais il y a un label qui se lance à l'heure actuelle pour certifier l'authenticité des matières premières biosourcées. Il y a des marques de compléments alimentaires qui commencent à poser un logo, un label de qualité sur le packaging, etc. Donc, les choses sont en train de bouger dans le bon sens parce que, c'est ce que j'ai peut-être dit un peu rapidement, il faut absolument que le consommateur soit satisfait de son complément qu'il va consommer, qu'il en trouve une efficacité. Or, il n'y a d'efficacité que si les matières premières utilisées sont les bonnes matières premières pour lesquelles le consommateur, vers lesquelles le consommateur va se tourner afin de se ressentir quelque chose. Et là, c'est très important parce que si rien n'est fait, entre guillemets, le marché va s'écrouler, risque de s'écrouler. Et je peux vous raconter, si vous avez encore une minute, ça a été le cas il y a quelques années avec la cranberry qui était utilisée, formulée contre les troubles urinaires, génito-urinaires des femmes, notamment pour les cystites. Il y a eu des problématiques de dosage, etc. Le marché s'est effondré parce que les consommatrices, les femmes, ne trouvaient pas de produits réellement efficaces parce que les marques jouaient sur... Il y avait des dosages à tant de milligrammes selon une méthode, tant d'autres milligrammes selon une autre méthode, etc. Donc voilà, il est très important vraiment de jouer la vraie carte de la transparence.
Oui, d'autant qu'il y a beaucoup d'études cliniques après qui attestent de l'efficacité d'un ingrédient. Donc ça, on se dit ok, ça marche, mais si après on ne retrouve pas le vrai ingrédient dans le complément alimentaire, oui, c'est sûr qu'avec toutes les études cliniques, ça pourra pas fonctionner si ce n'est pas les bons ingrédients. On est d'accord, Philippe?
Oui, c'est exactement ça. L'arpagophytum qui est remplacé, je dirais presque que c'est pas normal, quoi. J'achète un complément alimentaire avec l'arpagophytum, je sais que je m'attends à une certaine efficacité. Si je ne la retrouve pas, je me dis ça ne vaut rien, donc je n'achète plus cette plante, de complément alimentaire contenant cette plante,
ah oui.
Voire d'autres compléments alimentaires. Donc c'est vraiment une question de crédibilité du marché.
Très bien, et bien écoutez, merci beaucoup Philippe Millet, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un autre édito de la Nutra. Vous serez fraîchement rentré du Supplat Side West, j'imagine que vous avez déjà une liste de courses et de sujets qui vous intéressent.
Oui, il y a 1400 exposants, je ne sais plus combien de visiteurs attendus, mais voilà, je pense que c'est du même niveau que le VitaFood dont on avait fait une chronique là-dessus. Donc voilà, c'est un énorme show et... C'est intéressant de suivre la nutraceutique américaine. On a toujours tendance à dire que ce qui se passe aux États-Unis arrive 10 ans plus tard en France. Bon, peut-être dans la nutraceutique, l'exemple qu'on peut donner, c'est celui des gummies. Hein. Il y a 10 ans, elles étaient énormément présentes sur le marché. C'est le cas en France.
Eh oui.
Leurs ventes ont progressé de 80%, je crois, en un an. Donc voilà.
C'est pour ça que j'ai pris mon billet, moi, pour dans 10 ans, vous voyez ? Ça, je suis tranquille. Allez, merci beaucoup, Philippe. À très vite pour un édito de la Nutra en partenariat, on le rappelle, avec l'excellente Actif Magazine. Au revoir, Philippe.
Merci, Fabrice. Au revoir. Au revoir, Fabrice. Et puis, au revoir à toutes et au revoir à tous.
L'édito de la Nutra. Philippe Millet sur Nutri Radio.